fête les 20 ans de macOS 10, parce qu'on redit macOS, enfin 10, enfin macOS. Qu'est-ce qu'on dit exactement, Anthony ?
Bonne question. Je ne sais même pas si c'est le 20e anniversaire de macOS 10, parce que moi et mes camarades journalistes technologiques, on aime bien créer de l'actu là où il n'y en a pas. Et donc, en fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est la troisième fois qu'on fête le 20e anniversaire de macOS. Puisqu'on avait fait macOS 10 Server 1.0 en mars 2019. On avait fait la public bêta en septembre 2020. Et là, en fait, maintenant, les 20 ans de la commercialisation de 10.0 Cheetah. Donc techniquement, cette OS a 60 ans, puisqu'on a fêté trois fois ces 20 ans.
Du coup, si on parle de Cheetah et de la version, première version commerciale, en fait, ça me rappelle deux choses. Ça me rappelle, la première chose que ça me rappelle, c'est qu'on a pendant assez longtemps payé pour macOS 10. Et l'autre chose que ça me rappelle, c'est qu'avant cette version commerciale, il y avait une version de démonstration qui était disponible, il me semble, par CD aussi, dans un programme un peu exclusif.
Dans une enveloppe que j'ai encore quelque part, puisque j'ai fait des pieds et des mains pour réussir à l'avoir à l'Apple Expo. Qui est une enveloppe que tu payais, si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose comme 219 francs ou 229 francs. Mm. Et où la public bêta expirait en 2001 et Apple te donnait le crédit qui correspondait au prix de la bêta pour acheter 10.0.
D'accord.
Puisque 10.0 était la première version dite finale. Et donc on te remboursait la public bêta quelque part, qui elle avait expiré.
Oui, oui, ok. C'était un... C'était un changement assez intéressant quand même, parce que... de mon côté, quand j'ai... j'ai toujours vécu avec des Macs. Mon père était imprimeur, et du coup, il y a toujours eu des Macs à la maison, parce que le métier voulait ça. Et j'ai commencé, je crois, sur un SE30, donc ça devait être... Même pas le système 8, ça devait être autre chose encore avant. Et du coup, au fur et à mesure, comme ça, bon, au fur et à mesure, voilà, on change de parc et tout. Bon, G3, je passe très vite sur les power PC. G3, G4. Et c'est plus ou moins au moment du G4 que sort Cheetah, en fait. Bon, forcément, quand tu es dans l'édition ou l'impression, tu vas pas installer une bêta, surtout d'un nouveau système, tout de suite. Tu vas pas être un early adopter parce que sinon, c'est un peu risqué pour ton métier. Mais j'avais quand même installé parce que j'aimais bien, j'aimais bien les nouveautés. Et on avait dû, en catastrophe, changer ça sur macOS 9 à nouveau. Bon, si, je pense que le plus évident, et peut-être que la première chose dont on peut parler, c'est l'interface, quoi, évidemment, tout ce qui est Aqua. Et est-ce que c'est ça dont Steve Jobs disait qu'il voulait faire quelque chose que les clients aient envie de lécher, tellement c'était beau?
Alors, beau, je sais pas, mais pour l'époque, par rapport à... Moi, c'était assez bizarre, parce que contrairement à toi, je suis un switcher, mais je suis un switcher qui est passé de l'Apple II au Mac. Et à l'époque, j'avais encore un Apple IIc, et c'est vraiment à cette époque-là que j'ai commencé à rattraper mon retard, parce qu'à l'époque, j'avais 20 ans de retard sur informatique. Ma mère tapait encore sa correspondance sur une machine à écrire électronique, pour tout vous dire. Et c'est vraiment l'époque où j'ai commencé un peu à raccrocher les wagons. Donc j'ai réussi à avoir cette bêta, alors que j'avais aucune machine sur laquelle je pouvais l'installer, ce qui est quand même incroyable. Et c'est quelques années plus tard seulement que j'ai pu passer de l'Apple IIc au PowerBook G3 et au PowerMac G4 et découvrir avec quelques années de retard, oui, cette interface qui, moi venant de l'écran à 40 ou à 80 caractères de l'Apple IIc et des interfaces Windows 3.1 ou Windows 95 du collège et du lycée, ça faisait quand même un grand choc, quoi. Ça prouvait que l'informatique pouvait être sympathique, ce qui n'était pas dit jusque-là.
C'est super intéressant ça, parce que du coup, t'es arrivé sur quelle version de macOS 10 finalement ?
10.2. Quand je suis parti en prépa, donc en 2005, j'ai pris toutes mes économies, j'ai acheté un PowerBook G3 et un PowerMac G4. Donc j'avais quand même encore un peu de retard, mais beaucoup moins qu'avec l'Apple IIc, qui étaient des machines avec macOS 9.2.2 et macOS 10.2. Elle double bootait d'un côté sur macOS 9 et de l'autre côté sur macOS 10.
J'avais oublié ça, le double boot.
Uh-huh.
Ouais. Pendant longtemps, c'était le cas. Ouais. Mais c'est vrai que je crois que, enfin, on peut dire que les débuts ont été un peu difficiles quand même en termes de stabilité, de fonctionnalité. macOS 9.2 a eu la vie très dure en fait, parce que il s'est maintenu pendant très longtemps en parallèle de macOS 10.
C'était une version qui était vraiment faite pour être installée à côté de macOS 10. C'est ces deux dernières versions de macOS 9. Mais ce qui est intéressant, c'est que je n'ai aucun doute que moi et mes collègues, on refera dans quelques années les 20 ans de macOS en expliquant que macOS 10.2, en fait, c'est la vraie première version finale, parce que c'est la première vraie version qu'on pouvait installer, dans laquelle il n'y avait pas trop de bugs et qu'en fait, elle était bien. J'ai aucun doute là-dessus sur notre capacité à recréer de l'actu dans quelques temps.
Bon, les 80 ans, du coup, j'ai hâte de fêter ça.
Mais du coup, pour moi, macOS, ça reste ça. Ça reste macOS 10.2, ça reste les rayures, les gélules qui étaient super colorées, justement, vraiment des bonbons qu'on avait envie de lécher, des ombres qui faisaient 3 km de haut. Enfin, c'était vraiment. C'est ça, quoi. C'est cet OS un peu de carnaval, un peu clownesque, où on avait l'impression qu'ils ont balancé des pots de peinture à l'écran, et où vraiment l'informatique était sympa, quoi. J'avais à l'époque un ami qui avait un iMac G3 orange. C'était fun, quoi. Mais je sais pas si 10.2 c'était ma version favorite.
Là, c'est ce que j'allais te poser comme question ensuite, tu vois, parce que je me rappelle bien 10.2, tu vois, c'était Jaguar, il me semble, c'est ça?
Oui,
Je
peut-être.
m'étais mis en tête, tu sais, à l'époque, j'étais vraiment ultra fan, encore plus qu'aujourd'hui, et je m'étais mis en tête de retenir toute la succession des animaux, tu vois, donc Cheetah, Puma, nanana,
Cheetah,
et
puma,
Jaguar,
jaguar,
Panthère,
panthère, tiger,
Tiger, Léopard, Snow
léopard, snow
Léopard,
leopard.
Lion, Mountain Lion. Et on s'est arrêté là.
Et c'est tout.
Je suis vraiment un sale geek en fait. Mais le Jaguar m'avait pas mal plu, mais moi, ma préférée quand même, je crois que c'était Léopard. Non, c'était Tiger. C'était totalement Tiger, ma préférée. Ouais.
Je dois dire que ma favorite est sans aucun doute Tiger aussi.
Est-ce qu'on parle du dashboard ou pas?
Surprise. Non, le dashboard, oui, petit ange parti trop tôt, mais il y a peut-être aussi un peu d'habitude, parce que c'est la version de macOS 10 qui a eu la durée de vie la plus longue,
Oui, c'est vrai.
quasiment 2 fois plus longue que l'OS maintenant. Et je me faisais la réflexion que c'est un peu le premier macOS 10, et encore une fois, mes collègues journalistes et moi referons dans quelques années encore une fois les 20 ans de macOS 10 en disant que Tiger, c'est la première vraie version moderne. Mais où c'est ça quelque part? C'est le premier macOS 10 que l'on reconnaîtrait aujourd'hui. Tu as Spotlight, énorme avancée à l'époque. Tu as Automator. Tu as VoiceOver,
Oui, c'est vrai.
qui aujourd'hui est quand même un pilier de la stratégie d'Apple quand on pense à l'accessibilité. Et tu as même des trucs aussi simples que le dictionnaire. C'est la première version avec un dictionnaire intégré. La vidéo dans HeadChat. Ce sont des choses toutes bêtes, mais. Entre ces petits trucs, plus dashboard, plus sans aucun doute le fait que c'est la version qui a duré le plus longtemps et la première version sur les processeurs Intel, donc tu as toute une génération d'utilisateurs de macOS 10 qui ont découvert le Mac avec Tiger, ça fait quand même beaucoup de choses. Et où je pense que cette nostalgie pour Tiger, c'est pas parce que Tiger était fondamentalement meilleur que tous les macOS 10, mais c'est surtout parce que c'est la version qui a duré le plus longtemps et que c'est la première version avec les pros Intel.
Dans un sens, c'était peut-être aussi aujourd'hui, tu vois, le fait que ça suit tous les ans, enfin depuis même un certain temps maintenant, c'est à la fois chouette, mais en même temps, pour les gens qui n'ont pas l'habitude ou qui sont un peu moins à l'aise sur l'informatique, c'est un peu déstabilisant, quoi. Les mises à jour majeures sont faciles à rater, en fait.
J'écris chaque année un livre sur macOS. Je suis incapable de te donner la liste qu'on a fait tout à l'heure avec les grands félins. Je suis
Ouais.
incapable aujourd'hui de te la donner avec les lieux californiens parce que je les mélange forcément et j'en oublie forcément, alors que j'écris un bouquin chaque année sur le sujet. Et on le voit sur les forums, il y a des gens qui encore aujourd'hui se traînent du Sierra ou du High Sierra, et quand on leur parle de Big Sur, ils nous regardent avec des grands yeux, quoi. Et ça ne veut pas dire que macOS est mauvais et que les releases annuelles sont mauvaises. Mais c'est plus du tout le même rapport à la nouveauté. Il faut quand même se souvenir qu'il y avait des fêtes de lancement pour macOS 10. On pouvait aller chez son APR, et on pouvait y aller à minuit. Il y avait des événements et on pouvait payer cher, en plus à l'époque, quelques centaines de francs, pour acheter macOS 10. Faudrait imaginer ça aujourd'hui, quoi. Avoir un lancement sur le Mac App Store avec une grande fête, enfin c'est non. Ça se fait plus, c'est maintenant.
Oui, c'est
C'est
vrai.
à peu près aussi intéressant que de savoir quel firmware on a dans sa télé ou dans son micro-ondes, quoi. C'est le système qui vient avec la machine et ça devient indissociable de la machine et c'est un peu difficile de faire la part des choses.
Enfin, c'est à part aller dans le Mac App Store et stocker la page nouveauté, et encore, il n'y a pas de bannière forcément tout le temps, parce que maintenant, Mixer, j'ai pas vu de bannière, il me semble, dessus, mais enfin bon, c'est assez discret en fait. Ouais.
C'est discret et en fait c'est intéressant parce que tu peux marquer les anciennes versions de macOS 10, ils aimaient bien faire, regardez, on a 10 nouveautés ou 12 nouveautés marquantes ou 100 nouveautés marquantes, ils avaient fait une
Ouais,
année.
ouais.
Et il y avait un thème à chaque version qui était assez clair, et où maintenant c'est plus du tout le cas, où maintenant il faut vraiment qu'ils tirent la corde pour réussir à trouver 10 nouveautés marquantes, et où il y a plus de thème. Et c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste que c'est comme ça. Et où il y a un... C'est quelque chose que j'avais un peu théorisé il y a quelques années, où j'avais dit qu'on était en bêta permanente.
Ouais.
Et c'est un peu ça, quoi. On a un flot de nouveautés chaque année. Et même d'ailleurs, même plus chaque année, mais tous les 6 mois, parce que la point 3 ou la point 4 de chaque version, en général au printemps, d'ailleurs cette année, elle est un peu en retard. Mais c'est presque une deuxième mise à jour majeure dans l'année. Donc on a comme ça des flots de nouveautés qui arrivent un peu en permanence. Et si on suit les mises à jour, parce qu'on a une machine qui a 5, 6, 7 ans qu'on peut encore mettre à jour, si on suit le flow de mise à jour, c'est sympa, parce qu'on a de la nouveauté à peu près tous les 3, 4, 5 mois, quoi.
Ouais.
Mais il n'y a plus, c'est vrai, ce grand moment de l'année marqueur, ou ce grand moment tous les 2 ans marqueur, où on va acheter sa boîte avec son CD, où on a la petite vidéo d'introduction quand on démarre pour la première fois le système, ça en met plein les yeux, et on a ensuite un déluge de nouveautés d'un coup. Ça n'existe plus, ça se fait plus.
Ça m'est plein les yeux, mais pour l'anecdote, c'était un cauchemar en salle de réparation d'Apple Store. Quand t'avais Léopard qui sortait avec sa vidéo d'environ 1 minute 30, avec toujours la même musique, tu sais, et les écrans de bienvenue.
Impossible à passer si ma mémoire est bonne.
Impossible à passer, absolument impossible à passer, tout à fait. Et comment dire, oui, il y a un moment où tu t'habitues, on va dire. Pour pas dire tu te lasses. Donc c'est vrai que c'est différent maintenant, oui.
Mais je me faisais la réflexion, même une version comme Snow Leopard, qui est une version qui, de manière assez célèbre, Steve Jobs avait décrété qu'il y avait zéro nouveauté, ce qui était faux, mais peu importe. Mais voilà, où c'était cette grande version qui est restée mythique chez certains vieux cons. Il y a zéro nouveauté, regardez, c'est la dernière version stable de macOS 10, blablabla. Je suis un peu vieux con comme ça aussi. Mais où c'est marrant, parce que même cette version, soi-disant sans aucune nouveauté, j'en garde un souvenir assez agréable. Mais parce que quelque part, elle est plus facilement identifiable que n'importe quelle des versions depuis. Parce que justement, il y avait ce gimmick de il n'y a pas de nouveauté.
Oui, c'est
Et donc
vrai.
tu peux facilement l'identifier. Moi, je me rappelle évidemment du fond d'écran violet.
Bien sûr.
Je me rappelle aussi de Safari 4, où ils avaient tenté de mettre des onglets au-dessus de la barre d'adresse, ce truc un peu fou qu'ils avaient tenté. Je dois être le seul à m'en souvenir.
J'avais complètement oublié ça, j'avoue.
Mais c'est quand même fou de mieux se souvenir de cette version-là,
Ouais.
qui est une des toutes premières versions sur lesquelles j'ai écrite, et d'avoir un peu plus de difficulté à identifier les versions plus récentes et à se dire, ah oui, dans telle version, ils ont ajouté telle chose, et dans telle autre version, ils ont ajouté telle autre chose. Alors que ces versions-là, c'est des versions sur lesquelles j'ai écrit des bouquins. C'est quand même fantastique.
Ouais, mais c'est vraiment très intéressant. Comme tu dis, il y a déjà, enfin, Léopard, Snow Léopard, donc cette espèce de. On vient fixer le truc, et on n'a plus vraiment ça, je veux dire. C'est vrai qu'on avait un côté plénitude, quoi, qu'on n'a plus maintenant. Un aboutissement, en fait. Même dans Lion et Mountain Lion, il n'y a pas eu vraiment cet effet-là, et encore moins dans les nouvelles versions.
Non, Lion, c'est peut-être la dernière qui est facile à identifier parce qu'il y avait
Ouais.
encore du support physique.
Ouais.
Et puis c'est quand même une version qui était assez importante sur le plan des fonctions.
Et puis ne serait-ce que le lion, enfin tu te souviens du lion, quoi.
Et puis la tronche du lion, faut bien en convenir, c'est vrai. Mais non, depuis, c'est un peu un déluge permanent. Donc c'est plus difficile de dire très clairement oui. Sierra, c'était ceci. High Sierra, c'était cela. Mavericks, c'était telle autre
Oh,
chose,
j'avais oublié
etc.,
Mavericks.
etc.
Mais
Oui.
oui. Et est-ce qu'on peut dire qu'on a une version moins favorite, moins préférée, ou tu vois, de macOS 10?
C'est dur. Alors, j'ai pas connu la 10.1, j'ai pas connu la 10.3. La 10.1, paraît-il que c'était un cauchemar.
C'était dispensable.
D'accord. Bon, je l'ai pas connu. La 10.3, je l'ai sauté parce que je suis passé de 10.2 à 10.4.
J'ai bien aimé 10.3. Panthère.
Panthère. C'était la première avec exposé, c'est ça?
Exact. Et le métal
Ouais.
brossé, ce genre de
Et la
choses.
première avec le métal brossé. Ouais.
Ouais. Donc ça, c'était sympa aussi.
Je sais pas. J'ai pas gardé un souvenir fantastique de 10.7.
Rappelle-moi laquelle c'est.
Lyon.
Lyon. Oui.
J'en ai pas gardé un souvenir fantastique. Mais encore une fois, je pense que c'est parce que Snow Leopard a eu une carrière. En
Oui.
10.6, a eu une carrière assez longue.
C'est l'UXP d'Apple, on va dire ça, clairement.
Non.
Non?
Non.
Je tente une métaphore.
Non. Non, il y a, y a eu vraiment des. Si tu veux tenter une métaphore, tu pourrais dire qu'Apple a eu son moment Vista. Et vraiment 17, 18, 19, qui sont les versions dans lesquelles on commence à avoir le système de permission,
Ah,
où il commence à tourner la vis sur le système de quarantaine, des choses comme ça, et on commence à voir apparaître des boîtes de dialogue dont on se moquait à peine quelques années avant, et qui sont des boîtes de dialogue qui étaient constitutives de l'expérience de Windows et qui sont malheureusement devenues constitutives de l'expérience de macOS 10. Je pense que c'est un moment, je ne sais pas si c'est parce que ça a été compliqué à expliquer au lecteur. Ou si c'est parce que c'est un moment quelque part de reniement de tout ce qu'on avait pu dire pour se moquer de Windows, mais c'est pas forcément mes versions favorites. Ouais. Et elles étaient passablement instables par ailleurs, ces
Oui,
versions.
il y avait ça, enfin, c'est très intéressant ce que tu dis. Il y avait trois phénomènes, je pense. Il y avait ce premier phénomène de, effectivement, beaucoup de boîtes de dialogue, un système très bavard, en fait. Deuxième, l'instabilité, qui était quand même généralisée sur plusieurs versions à la suite. Et troisième, peut-être aussi, tout ce qui est, en fait, la sécurité. En fait, il y avait ces mesures de sécurité d'un côté, mais aussi, c'est à ce moment-là que le Mac est aussi devenu plus vulnérable, j'ai l'impression. Dans l'esprit des gens, en tout cas, je dis pas que c'est la réalité, mais dans l'esprit des gens, il y avait, en tout cas de moi, il y avait cette espèce d'invulnérabilité du Mac pendant très longtemps, parce que tout le monde se fichait du Mac aussi, il faut dire ce qui est. Et progressivement, ça a changé, et aujourd'hui, c'est encore quelque chose de sensible, quoi.
Non, mais c'est aussi un moment où le Mac a un peu vécu dans l'ombre de l'iPhone, même si ça avait été déjà le cas avec Léopard, mais c'est vraiment le moment où quasiment toutes les fonctions de macOS 10 sont en fait des fonctions qui sont importées d'iOS et qui servent l'iPhone plus qu'elles ne servent le Mac. C'est les premières grandes fonctions de continuité. Et c'est aussi un moment où en face, quoi, Microsoft solidifie un peu avec Windows 7, Windows 8, même si Windows 8 c'était compliqué. C'est un moment où. Je voudrais pas dire qu'on s'est débarrassé des virus, mais c'est un moment où la menace des virus devient moins importante et où on commence à avoir des failles qui s'attaquent à l'utilisateur avec le phishing, l'ingénierie sociale. Et donc, le Mac commence à devenir la cible d'attaque,
C'est
et
ça,
même
voilà.
pas seulement la cible d'attaque, mais la victime d'attaque.
Tout à fait,
Et où donc, c'est à la fois un moment où Apple commence à. Elle aime bien parler de citadelle de Vauban, Apple, pour parler de la sécurité. C'est le moment où elle commence à ériger les premières murailles et c'est en même temps le moment où le Mac commence à être cerné de toutes parts.
Intéressant,
Et en
ouais.
face, ça se passe pas si mal que ça, finalement. C'est un
Oui.
peu l'époque où Microsoft se réveille.
Faut dire qu'on revient de loin aussi, hein. C'était quand même. Il y a eu. Oui.
Ça, y a aucun doute qu'ils viennent de très loin. Mais c'est quand même intéressant, c'est un moment un peu compliqué. Ouais. Je m'en souviens pas comme d'un moment très fun. Même pour écrire sur macOS 10, c'était pas super fun à l'époque.
Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu un moment de vache maigre un peu. Aujourd'hui, enfin, la stratégie est différente. Il y a évidemment l'intégration avec iOS, enfin, tous les différents OS, la stratégie un peu menée de front comme ça, et de concert. Et bon, du coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quelque chose quand même d'assez cohérent et qui est en route quoi maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a eu un flottement un petit peu voilà, cette période-là. Ouais.
Mais où ça fait 3-4 ans que c'est beaucoup plus simple à comprendre, où il y a des paquets très clairs de mise à jour qui sont faits de front sur tous les OS, donc de watchOS jusqu'à macOS, où techniquement c'est beaucoup plus affirmé, on le voit avec pas l'abandon, mais la transition, la longue transition, on va dire, d'Objective-C vers Swift, d'AppKit et d'UIKit vers SwiftUI, avec Combine et des choses comme ça. On voit aussi que les OS qui avaient beaucoup divergé sont en train de vraiment se rapprocher, où finalement, on n'est pas très très loin d'un Core OS, qui est un mot qui chez Apple résonne, Core OS, hein, c'est littéralement le nom d'une division. Mais on n'est pas loin d'un Core OS commun avec une couche qui s'appellerait iOS, une couche qui s'appellerait macOS, une couche qui s'appellerait watchOS, etc. etc. Et où c'est beaucoup plus facile qu'avant, de mettre à jour sa machine. Même si tu gagnes pas grand-chose chaque année, sur 2 ou 3 ans, tu as quand même un paquet de choses qui ont changé. Enfin, pêle-mêle, hein, ces dernières années, on a eu un tout nouveau système de fichiers, APFS. L'interface qui a complètement été réécrite avec Metal, ça va quand même beaucoup plus vite.
Ouais, franchement, c'est beaucoup plus réactif.
Là, carrément, avec Bixor, on a un tout nouveau thème graphique. Tout à l'heure, tu parlais d'Aqua, les boutons qu'on a envie de lécher. Bah, là, c'est plus le cas. Aqua, c'est fini.
Oui.
Enfin, il s'appelle toujours Aqua, techniquement. Oui. Mais,
quelque chose enfin, subsiste dans l'esprit, mais ce n'est plus du tout la même expression.
Mais où, c'est quelque chose que j'ai écrit cette année, mais dans Bixor, il y a les mêmes excès qu'il y avait dans Aqua, dans 10.0. Quoi.
Oui, oui, oui.
Il y a quelque chose de pas fini dans Bixor, ou même dans iOS 7, tu as raison. Il y a quelque chose de pas fini dans Bixor, il y a quelque chose d'excessif, il y a trop de couleurs, il y a trop d'ombre, il y a trop de choses. Mais en même temps, c'est fun.
Ah, c'est super fun.
parce que c'est la première fois depuis des années que j'ai l'impression de pouvoir voir où est-ce qu'ils veulent en venir.
Oui. Oui.
Même dans les incohérences, parce que par exemple, pourquoi l'icône de message, elle a une ombre sur Mac et pas sur iPhone? Pourquoi? Pourquoi?
Tu te rappelles l'icône de la batterie dans les réglages
dans les... Affreuse Affreuse ce truc qui te donnait envie de te percer les rétines. Non, oui, oui.
Et celui-là.
Mais même dans ces excès, tu te dis ah, je vois où ils veulent en venir, je vois ce qu'ils veulent faire.
Et ce qui est intéressant, c'est, pour rebondir encore sur ce que tu disais plus tôt, c'est que c'est une. Tu disais que la frontière était de plus en plus ténue, en fait, entre le logiciel et matériel. Et là, on voit avec les M1, bien entendu, que c'est. Enfin, c'est très intéressant que ça arrive au même moment, quoi. Un nouvel OS pour les M1 et
un nouveau chiffre. Et parce qu'on parle plus de macOS 10. C'est macOS 11.
Ah mais c'est vrai, ça y est.
Eh oui.
Oh. Mais du coup, pourquoi on parle de tout ça en fait?
Mais ce qui est assez fascinant dans ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on voit qu'on a maintenant les mêmes composants, à la fois dans le matériel, dans le logiciel et dans les services. Tous les appareils d'Apple utilisent maintenant, à quelques exceptions près, les mêmes processeurs, les mêmes cartes graphiques, les mêmes contrôleurs pour le même stockage, les mêmes technologies d'écran, les mêmes puces Wi-Fi, Bluetooth. Enfin, je pourrais continuer comme ça pendant un quart d'heure, la liste des composants. Le même logiciel, puisque ce sont les mêmes logiciels intégrés, et on a maintenant l'App Store qui est quasiment complètement fusionné. On peut télécharger des applications iPhone et iPad sur son Mac.
Ouais.
Les mêmes services.
C'est vrai.
À tel point que ça n'a plus grand sens aujourd'hui d'utiliser un iPhone, un iPad ou un Mac sans avoir de compte iCloud.
Oui, clairement.
On rate tellement de fonctions que ça n'a plus aucun sens. Et où finalement, c'est la combinaison de ces différents composants qui fait la différence entre l'iPhone, l'Apple Watch, l'iPad, le Mac, l'Apple TV.
Ouais.
Et c'est vraiment intéressant parce que tu as l'impression que c'est des espèces de Transformers, quoi. Il y a un type dans un labo qui se dit, bon, bah alors si je mets l'écran comme ça et le processeur comme ça, c'est un Mac. Si je mets l'écran d'une autre manière avec le processeur d'une autre manière, bah, c'est un iPhone. Et où c'est quand même assez fantastique de se dire, finalement, j'ai quasiment le même appareil au poignet, devant mes yeux sur la télé, ouais. Sous les mains, sous la forme d'un Mac, dans ma poche, sous la forme d'un iPhone. Comme tu disais, on ne sait pas vraiment trop pourquoi on parle de macOS 10 aujourd'hui, enfin, d'ailleurs, même plus de macOS 10, mais de macOS 11. Parce que c'est un peu le même OS que sur l'iPhone, quoi. À part qu'on a un terminal et qu'on peut encore installer des applications qui ne viennent pas de l'App Store. Mais bon.
Pour l'instant.
Pour l'instant. Mais c'est vraiment le truc fascinant dans ces dernières années, c'est que presque sans qu'on s'en rende compte, parce que justement, on était dans le train-train des mises à jour qui n'arrêtent pas de défiler tous les ans, tous les 6 mois,
ouais.
Et puis iCloud qui se met à jour en permanence, on a presque raté que, si tu dézoomes à l'échelle de 10 ans ou justement de 20 ans, quand on parle des 20 ans de macOS 10,
ouais.
Le macOS aujourd'hui a quasiment rien à voir techniquement avec le macOS 10 de l'époque. Objective-C, c'est quasiment fini. Le noyau est en cours de réécriture. Metal n'existait pas. iCloud n'existait pas. Et il n'y a rien à voir entre le .Mac de l'époque, .Mac, pour faire plaisir à Monsieur Morel, .Mac en français, et iCloud aujourd'hui. Donc techniquement, ces deux OS ont quasiment rien à voir l'un avec l'autre, à part le fait qu'on peut faire tourner à peu près les mêmes apps. Et encore, je ne suis pas sûr qu'on puisse prendre une app de y a 20 ans et la faire tourner sur l'OS aujourd'hui. Je suis même sûr qu'on ne peut pas.
Oui, oui. À part les... Non, vraiment. J'allais dire les échecs qui sont l'application qui est restée de A à Z.
Mais non, parce qu'ils l'ont réécrite il y a quelques années.
Ils l'ont aussi réécrite, effectivement.
Mais, oui. Mais c'est quand même fantastique de se dire, quand tu dézoomes,
ouais.
Presque sans qu'on ait eu le temps de s'en rendre compte, on a une toute nouvelle plateforme.
Et qui est un maillon de... Si on prend la métaphore du coup du poids lourd que Steve Jobs utilisait pour l'ordinateur de bureau, qui un peu utilisait toutes les sauces, dans un sens on a différents, tout est sert à la mobilité, mais après on a différents moyens de transport, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir tes rollers avec réacteur avec l'Apple Watch, et puis tu vas avoir Je dis ça parce que tu vois, c'est pas un vélo, tu peux le prendre dans ta poche, entre guillemets, tu vois, tu peux te porter avec toi. Les vélos, c'est plus encombrant que ça. Le vélo, ce serait peut-être, je sais pas, peut-être l'iPhone, ouais, pourquoi pas. Et puis l'iPad, ce serait le scooter. Si on
J'aime bien cette métaphore.
veut.
Oui, mais en même temps, je ne sais pas si la métaphore du camion marche encore aujourd'hui,
C'est un bon point, ouais. Elle est très datée en
avec les
fait.
Mac
Ouais.
et main. Je pense qu'il y a quelques années, c'était encore ce qui guidait Apple, notamment avec le Mac Pro, l'iMac Pro, enfin l'iMac Pro qui aurait dû remplacer le Mac Pro, puis le nouveau Mac Pro. Et où je reste persuadé que le plan d'Apple, c'était de faire la nique au MacBook Air et de vraiment installer l'iPad comme la solution mobile. Et vraiment d'avoir le camion, le MacBook Pro très lourd, qui n'est pas portable, le MacBook Pro. 75% des gens qui ont un MacBook Pro, le MacBook Pro, il reste sur un bureau, il ne sort pas, le chiffre vient d'Apple. Le Mac Mini, l'iMac et le Mac Pro, donc qui étaient vraiment des camions. Et je crois qu'ils se sont rendus compte que c'était. Je ne sais pas si c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était trop tôt ou que c'était pas possible de le faire. Et qu'on est revenu sur la stratégie d'avant, qui est on a. Finalement un continuum, et d'ailleurs ça se voit dans les prix, hein. On a un continuum du premier iPhone jusqu'au Mac Pro, et où je crois qu'il y a un prix tous les 50 euros, quelque chose comme ça, jusqu'à de 500 euros à 2500 euros, il y a une machine tous les 50 euros, et quand je dis machine, ordinateur personnel dans le sens que moi j'ai, c'est-à-dire de l'iPhone au Mac en passant par l'iPad.
On s'entend,
Mais où c'est
ouais.
intéressant parce qu'on a des appareils avec la même capacité de stockage, la même taille d'écran et le même prix.
Oui.
Qui sont, tu peux prendre l'iPad et en face tu as, en face de l'iPad Air tu as du MacBook Air, en face de l'iPad Pro tu as du MacBook Pro, même taille d'écran, même stockage, même prix. Et ça, je pense pas que c'était le plan original, le plan du camion. Et donc j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui a changé dans la stratégie d'Apple.
Alors, ça me fait une excellente transition vers la suite, mais du coup, même si on en a déjà parlé un petit peu, pour toi, qu'est-ce que tu vois dans le futur de macOS à court, moyen et long terme, on va dire à échelle de 3, 6 et 10 ans,
Je sais pas.
quoi.
Non, j'aime pas faire des prédictions dans la boule de cristal. Je préfère lire des prédictions en lisant dans le marc de café Tim Cook.
Il boit
C'est
du
une bonne.
café, tu penses?
Dans le marc de Coca-Cola Zéro de Tim Cook. Mais parce que je pense que ça marche bien et c'est plutôt des papiers qui ont plutôt bien tenu ces papiers-là. Non, à court terme, je pense que la stratégie, c'est vraiment de continuer à intégrer à vraiment aller vers cette stratégie de ce que moi j'appelle les expressions matérielles, ce que les Anglais appelleraient le form factor, qui est vraiment on a les mêmes composants et on les réassemble et ça donne différents appareils avec quasiment les mêmes logiciels et les mêmes services. Ça, c'est évident et on va très très vite avoir un iMac M1. Je suis persuadé qu'ils vont réussir à nous faire un Mac Pro avec leur propre puce et ça va être bien. Après, franchement. Je continue à penser que le futur de l'informatique, il est à la frontière de la biologie. Donc, je suis presque plus intéressé par l'Apple Watch, les AirPods, les lunettes, que par le Mac. Et je me demande si la raison d'être du Mac à la fin, ça n'est pas d'être la plateforme de création des contenus pour ces autres appareils. De la même manière que aujourd'hui, c'est une plateforme de développement avec Xcode pour l'iPhone et l'iPad. Et l'Apple Watch, et l'Apple TV, etc. Et que c'est aussi la plateforme sur laquelle il y a Final Cut Pro, quoi. Tu crées de la vidéo, où il y a les moteurs de développement de jeu. Et donc peut-être qu'on aura, et on le voit avec les choses qui font tourner AirKit, ce sera peut-être la plateforme pour développer les expériences en réalité augmentée et en réalité virtuelle. Je sais pas, c'est vraiment difficile de se projeter à 10 ans. Parce qu'encore une fois, quand tu te projettes, quand tu reviens en 1999, pour les toutes premières des prémices de macOS 10. Alors à l'époque on était très jeunes toi et moi. Mais enfin tu te dis quoi, à l'époque on se serait dit c'est quoi le Mac dans 10 ans, c'est quoi le Mac dans 20 ans. Voilà, on aurait dit un cheval qui va plus vite quoi. On n'aurait pas dit la Ford T. Pour
Oui,
reprendre une phrase qu'adorait Steve Jobs.
c'est une très bonne phrase. C'est vrai que c'est un bon point aussi. Pour le coup, dans l'expression du Mac aujourd'hui, il y a, enfin, on n'est plus du tout sur la même expression, quoi. Avec tout l'écosystème et donc, enfin, comme tu dis, les ordinateurs dans le sens très large du terme, les ordinateurs aux oreilles, les ordinateurs, comme tu dis. J'aime beaucoup ce mot-là. Comment t'appelles l'Apple Watch du coup? C'est un.
J'ai pas encore trouvé de
T'as
nom
pas.
pour l'Apple Watch. Elle m'embête l'Apple Watch.
On se penchera sur la question. Mais de toute façon, c'est temporaire, l'Apple Watch, je pense. Il y a quelque chose de... Enfin bon. Et... Ouais, enfin, cette stratégie-là n'était pas du tout présente, ni même discernable, quoi. Là, on voit où ça vient, c'est-à-dire une unification du contenu grâce à iCloud, et puis une incarnation dans tous les périphériques possibles.
Et la difficulté dans les exercices de prospective, c'est toujours la même, c'est que c'est assez facile de se dire on va prendre ce qui existe aujourd'hui et on va l'amplifier, c'est assez difficile d'anticiper les technologies de rupture. Quand tu lis des romans de science-fiction ou des romans d'anticipation des années 40, quasiment personne parle d'Internet. Quasiment personne a l'idée d'un réseau, non pas seulement téléphonique mondial, mais d'un réseau télématique mondial. Et donc se dire aujourd'hui, moi je sais pas, même des choses très simples, hein, qu'est-ce qui se passe si on arrive à avoir des batteries extraordinairement fines avec une densité extraordinairement élevée qui se recharge en un clin d'œil? Ça change tout. Ça devient facile de faire des iPhones qui tiennent dans les oreilles. Qu'est-ce que ça change? Enfin, si demain l'informatique quantique prouve que c'est autre chose qu'une arnaque pour les gens qui ont envie de perdre de l'argent. Oui, là on commence à discuter, on arrête de parler du Mac et on arrête de parler de l'iPhone, on enterre tout ça et on parle d'autre chose. Donc à 3 ans, je sais ce que c'est le Mac,
Oui.
à 10 ans, je suis incapable de le dire.
Oui,
Et tant mieux, parce que c'est ce qui me permet de me lever le matin, en ayant envie d'aller au travail et d'écrire sur la technologie, hein.
encore une fois, l'expression matérielle aussi est très intéressante. Le M1 ouvre des perspectives, mais démentes. Et c'est la première fois que je vois des Mac qui ont un ancien design qui sont aussi intéressants, en fait.
Et en même temps, c'est la version la plus conservatrice qu'on pouvait faire
C'est
d'un
vrai
Mac
aussi.
avec un processeur Apple. Et quand tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur d'un processeur Apple, et que tu es un geek, mais tu es impatient parce que tu te dis, on va pouvoir avoir non pas seulement des webcams 4K, mais des webcams 4K qui marchent comme les appareils photo de notre iPhone, qui sont capables de manipuler la réalité. On va avoir des écrans avec on pourra adresser au pixel près, donc niveau batterie ça va être génial et niveau fréquence de rafraîchissement ça va être super. Et on a tout un tas de petites technologies comme ça qui viennent. Ce qu'on va pouvoir faire dans macOS dans quelques années en machine learning ou en accélération graphique parce qu'on a le processeur Apple. Et donc c'est à nouveau excitant quoi. Ça faisait des années que c'était pas le cas et c'est à nouveau excitant.
Je me pose une question là-dessus justement en termes de décision, tu vois. C'est toujours un peu obscur chez Apple, même si bon, on voit plus ou moins les différents niveaux. Mais cette espèce de conservatisme, donc on voit qu'il y a aussi ça passe aussi par le M1. Je pensais le fait de garder un ancien design pour avoir un nouveau processeur comme ça, c'est aussi on évite la prise de risque de changer tout en même temps. Est-ce que tu penses que c'est l'influence de Federighi, de Cook? Qu'est-ce que Je pose la question, tu vois.
Ils avaient fait la même chose en passant au processeur Intel, où ils avaient commencé par MacBook Pro, et où c'était littéralement on prend le PowerBook G4, on lui met un processeur Intel, et on le renomme MacBook Pro. Et il a fallu attendre quelques années pour se rendre compte ce que pouvaient faire les processeurs Intel, et ce qu'ils ont pu faire, c'est le MacBook Air, qui est une machine qui a juste redéfini l'ordinateur portable. Juste. Et donc tu te dis, quoi.
Attends, je crois que c'était le Chromebook qui avait fait ça, je comprends pas.
L'IPC. Et donc tu te dis aujourd'hui, c'est la même, c'est ce qui est fort, c'est que tu peux prendre le keynote de Tim Cook aujourd'hui, enfin il y a l'an dernier, et le keynote de Jobs il y a en 2005, c'est le même. Et c'est la même stratégie. Et donc tu te dis, c'est quoi le MacBook Air de l'ère M1? C'est quoi dans quelques années cette machine qui forcément, parce que ses processeurs permettent d'autres choses, va redéfinir ce que c'est qu'un Mac? Et donc va redéfinir ce que c'est que macOS. Je trouve ça profondément excitant.